Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Il est à nouveau question de l'Arabie Saoudite. Nous sommes en compagnie du politologue Bertrand Badi, professeur de relations internationales à Sciences Po et chercheur au CERI, et de la journaliste Clarence Rodriguez qui publie Arabie Saoudite 3.0 aux éditions Éric Bonnier. On a parlé du président thaumaturge avec Frédéric Say, c'était en France. On pourrait parler non pas du roi thaumaturge, mais du prince thaumaturge MBS Mohamed Ben Salman, ce jeune prince qui est en train de vouloir bouleverser l'Arabie Saoudite avec un agenda particulier. Expliquez-nous, Clarence Rodriguez.
Si ce jeune prince héritier, on en parle tant aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, il est en train de mettre en place son plan Vision 2030 qu'il a proposé en avril 2016. Alors, quel est ce plan ? Ce plan Vision 2030 vise donc à préparer cette société à l'après-pétrole. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, justement, il y a une crise quand même drastique due donc à la chute du prix du baril de pétrole. Eh bien, le jeune prince héritier veut profiter justement donc de cette crise économique pour insuffler, je veux dire, des réformes sociétales. C'est la raison pour laquelle, justement, donc, il veut absolument que les femmes conduisent, non pas parce qu'il est devenu féministe ou autre, non, c'est parce que les femmes vont être plus nombreuses à travailler, parce que ils ne veulent plus des étrangers aussi, qui envoient l'argent, si vous voulez, leur salaire à l'étranger. Donc, il faut que les femmes travaillent, il faut que les hommes aussi travaillent, les Saoudiens, parce que pendant que les hommes emmènent les femmes, les filles, les sœurs, etc., faire les courses chez le médecin, etc., l'homme, en fait, ne travaille pas. Il est obligé de quitter plus tôt donc, le travail. Donc, ce sont des réalités que vivent donc les Saoudiens aujourd'hui. Donc, tout, si vous voulez, découle de ce plan Vision 2030. Il est déterminé, ce jeune prince héritier, et il est tellement déterminé que le 4 novembre, on l'a vu, il veut tout nettoyer. Il impose une purge, même auprès des puissants. Des puissants saoudiens.
Qui sont ces hommes qu'il a aujourd'hui mis en prison, même s'il s'agit d'une prison luxueuse ?
Écoutez, déjà, un des célèbres, des plus célèbres, on parle beaucoup du prince Al-Walid bin Talal, qui quand même pèse lourd quand même dans l'économie du pays. On parle également, vous savez, du prince Mitab. Mitab est le fils de feu roi Abdallah, qui était donc le patron et le ministre de la garde nationale, qui est une armée bis donc en Arabie Saoudite, et qui était aussi pressenti pour devenir quand même roi à un moment donné aussi, vous voyez. Donc il y a pléthore donc d'hommes influents qui ont été mis à l'index, qui sont actuellement donc quand on dit prison, vous savez, en ce moment ils sont mis à résidence, enfin voilà, à l'hôtel Ritz-Carlton à Riyad. Mais vous savez, je tiens à le préciser, et ça a été confirmé parce que j'ai eu des personnes à Riyad, ils ont été, donc certains d'entre eux ont été torturés le 4 novembre lorsqu'ils ont été arrêtés.
Et puis, il y a une autre personne qui est aujourd'hui, semble-t-il, en résidence surveillée. En tout cas, je vous pose la question, Bertrand Badi, c'est Saad Hariri. Quelle est la logique de cela ? Qu'est-ce qui peut se passer et quelles vont être les conséquences sur la situation intérieure au Liban ?
Alors, comme on le disait tout à l'heure, la prise de pouvoir brutale par MBS a impliqué un redéploiement régional et international de l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que c'est, disons, une prise de pouvoir extravertie. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se faire autrement qu'en modifiant le positionnement de l'Arabie Saoudite dans la région et dans le monde. Le positionnement de l'Arabie Saoudite dans la région et dans le monde a toujours été en demi-teinte depuis la Seconde Guerre mondiale. Internationalement, c'était un allié fidèle des États-Unis, mais ça s'était un peu dégradé après le 11 septembre, et puis de façon encore plus nette, sous la présidence de Barack Obama. L'Arabie Saoudite n'investissait pas beaucoup dans les relations internationales. C'est un des rares pays, et en tous les cas du monde arabe, qui n'est jamais siégé au Conseil de sécurité. C'est quand même intéressant de le noter. Ça, c'est fini. Il faut entrer dans le monde, il faut entrer dans le système international, et MBS essaye de prendre le pouvoir en s'affirmant internationalement. Et puis, il y a aussi la dimension régionale. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on agissait sur le plan régional. On était en quelque sorte le garant du conservatisme dans le monde arabe, face au baasisme, face au nassérisme. Faut quand même pas oublier à quel point la monarchie saoudienne a essayé de contrer l'influence nassérienne, la première guerre du Yémen et beaucoup de choses de cette nature. Ça, c'est terminé aussi. Il ne s'agit plus seulement de contrebalancer, il s'agit de prendre le pouvoir. Il y a une Ligue arabe qui existe depuis 1945, qui a été toujours depuis sa création contrôlée par l'Égypte. L'Égypte est affaiblie. L'Égypte, en quelque sorte, est vassalisée aujourd'hui par l'Arabie Saoudite, ce qui est quand même quelque chose de tout à fait remarquable dans les équilibres propres au monde arabe. Et cette fois-ci, l'Arabie Saoudite veut jouer le premier rôle. Alors, jouer le premier rôle, ça veut dire quoi? Ça veut dire éliminer ceux qui veulent aussi jouer le premier rôle. Alors, à côté du gros saoudien, il y a le petit Qatari. Si vous regardez sur une carte, le Qatar, c'est une sorte d'excroissance par rapport à l'Arabie Saoudite. Mais le Qatar voulait, parce qu'il avait la puissance économique, parce qu'il disposait d'un réseau extraordinaire, parce qu'il disposait d'Al Jazeera, jouer sa carte propre dans le monde arabe, et en jouant notamment du soutien à un réseau très important que tout le monde connaît, qui est les Frères musulmans. Ceux qui faisaient peur à l'Arabie Saoudite et qui surtout agaçaient l'Arabie Saoudite. Donc il a fallu saquer le Qatar. Il y a le Liban. Pourquoi le Liban? Le Liban, d'abord, c'est traditionnellement dans l'histoire du monde arabe la caisse de résonance de tout le monde arabe. C'est-à-dire vous retrouvez à l'intérieur du microcosme politique libanais toutes les tendances qui s'épanouissent au sein du monde arabe, de l'extrême gauche à l'extrême droite, du baasisme jusqu'au sunnisme traditionnel. Donc, effectivement, qui contrôle le Liban contrôle d'un certain point de vue le monde arabe. Donc, il fallait remettre au pas le Liban, parce que le Liban, c'est quoi? C'est une coalition entre sunnites immodérés, Hezbollah et les différentes tendances du maronisme.
Mais ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour le Liban, puisque il y a fort à parier lorsqu'on va à Beyrouth, par exemple, on voit la présence du Hezbollah. Et il est probable que l'Iran ne laisse pas faire cette mise au pas comme peut-être les autorités saoudiennes envisagent de la faire.
Et il ne faut pas oublier que le Liban a eu énormément de mal à définir ce point d'équilibre, c'est-à-dire l'élection de Aoun comme président de la République, rappelez-vous, a pris plus d'un an de temps. Elle était bloquée justement par l'Arabie Saoudite et par le Hezbollah. Puis quand il y a eu un accord Hezbollah-Arabie Saoudite, il a fallu désigner un Premier ministre. Ça n'a pas été facile. Le Hezbollah a accepté cette caution saoudienne que représente Hariri. Nous sommes maintenant dans une remise en cause de ce pacte.
C'est une très mauvaise nouvelle d'ailleurs d'avoir forcé quelque part Saad Hariri à démissionner. Justement, Saad Hariri, donc saoudo-libanais, était, l'homme de main de l'Arabie Saoudite aujourd'hui pour justement contenir l'influence du Hezbollah, donc chiite. Donc là aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y aura plus personne. Donc j'ai presque envie de dire que l'Arabie Saoudite s'est tiré une balle dans le pied. Vous voyez, aujourd'hui. Et je voudrais revenir justement sur MBS, encore une fois, Mohamed bin Salman.
Il a effectivement
Le nouveau prince, ouais, et le prochain roi d'Arabie Saoudite. C'est vrai que c'est un coup de force. Mais il a fait au détriment, si vous voulez, des codes ancestraux. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tout se faisait de façon feutrée et non ostentatoire, comme il le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait fi de tout ce que ont fait les prédécesseurs, c'est-à-dire que, et vous l'aviez dit tout à l'heure, vous savez, c'était cette génération, enfin c'était, c'était adelphique, c'est-à-dire de frère en frère. Là, on saute la génération. Et lui, qu'il bafoue absolument tout ce qu'il sait, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent en Arabie Saoudite. Et là, justement, c'est là où les tensions sont exacerbées et commencent à être exacerbées en Arabie Saoudite, parce que la population est totalement perdu, si vous voulez. Il n'y a plus du tout de repères. Ce jeune, si vous voulez, c'est une bonne chose, il faut le dire quand même, de vouloir moderniser le pays, mais au détriment de certaines valeurs, de certains codes, et on le voit.
L'opinion publique pourrait ne pas le suivre.
Alors, Il a pour lui, si vous voulez, cette population, cette jeunesse, également les femmes. Mais attention, les jeunes sont demandeurs. Pour l'instant, c'est vrai que ce jeune Mohamed Bin Salman incarne l'espoir dans ce pays. Mais il va pas falloir, si vous voulez, les décevoir, ces jeunes. Parce que ces jeunes ont vraiment besoin de bouger, mais... voilà, il va, je pense pas que si vous voulez, il faut, enfin, encore une fois, je voulais juste dire une chose, c'est que cette population saoudienne est profondément conservatrice. Hein. Il faut pas croire que du jour au lendemain, je veux dire que ça va être une population libérale. Non, on en est loin.
On continue à voir les conséquences sur la région. Donc, vous avez évoqué le Liban, Bertrand Badi. Il faut maintenant essayer d'expliquer ce qui se déroule au Yémen avec une catastrophe humanitaire, avec une guerre dont on comprend mal les tenants et les aboutissants. Expliquez-nous pourquoi cette guerre se perpétue alors même qu'elle coûte très cher à l'Arabie Saoudite, alors même que l'Arabie Saoudite est aujourd'hui en proie à de profondes difficultés financières.
Alors c'est un dossier extraordinairement complexe hein, que l'on oublie parce que le Yémen c'est la marge en quelque sorte. Et c'est pas n'importe quelle marge, hein, c'est aussi un pays qui contrôle l'entrée de la mer Rouge, la liaison avec la Corne de l'Afrique qui elle-même est en guerre civile, donc c'est une région extraordinairement sensible. C'est un pays qui a une tradition d'abord d'État extraordinairement faible. C'était une monarchie zaïdite qui jusqu'au 1962 était au pouvoir au Yémen. Les Zaïdites, qu'est-ce que c'est ? C'est une branche du chiisme qui n'a d'ailleurs que très peu de rapport, faut pas oublier de le dire, avec le chiisme iranien. Ne simplifions pas les choses. Et puis, les Zaïdites ont été bousculés par un régime républicain d'inspiration nassérienne. À l'époque, l'Arabie Saoudite n'avait pas hésité à aider les Zaïdites chiites face à la poussée nassérienne. Voyez comme quoi le clivage sunnite-chiite est beaucoup plus fragile qu'on le dit. Et puis, ce régime républicain s'est mis en place et est devenu peu à peu une sorte de protectorat de l'Arabie Saoudite, avec des hauts et des bas, notamment lorsque ce régime républicain a soutenu Saddam Hussein dans la guerre du Golfe, ça a fait genre, ça a provoqué notamment l'expulsion de tous les travailleurs yéménites immigrés dans le Golfe et en Arabie Saoudite, un début de tension, et puis cette tension s'est relâchée. Et puis il y a eu, en 2011, le printemps arabe, qui a bousculé le régime autoritaire, corrompu et en même temps faible et fragile de Monsieur Saleh. Monsieur Saleh a été renversé, l'Arabie Saoudite lui a donné l'hospitalité et c'est son vice-président Hadi qui l'a remplacé. Ce qui a provoqué une réaction justement de ce chiisme zaïdite autour des Houssis. Les Houssis, ce ne sont pas les descendants à proprement parler des monarques zaïdites, mais représentent cette sensibilité d'un chiisme exceptionnel, qui se sont rebellés contre le pouvoir du nouveau président Hadi, qui ont déclenché un processus de guerre civile, qui a été victorieux, puisqu'ils sont saisis de la capitale, ils ont pris le pouvoir, et ils ont rappelé l'ancien président Saleh, qui est devenu leur allié. Vous voyez comment les alliances sont extraordinairement fluctuantes dans cette région du monde. Et on en est là actuellement, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite a eu très peur de cette coalition entre l'ancien président Saleh, auquel elle avait pourtant donné l'hospitalité, et ses Houssis, qui représentent une dynamique autonome par rapport à l'Arabie Saoudite, donc ont monté une vaste coalition dans laquelle les puissances occidentales, et notamment la France, se sont compromises, c'est-à-dire ont été activement participantes. Cette coalition fait énormément de dégâts, y compris sur les populations civiles. Une guerre qui est très meurtrière et dont on ne parle pas parce que c'est moins important, bien entendu, que l'élimination de l'Italie de la Coupe du Monde du football. Mais il reste qu'il y a énormément de souffrance dans cette région et que finalement, cette coalition très puissante n'arrive pas à gagner. Donc,
on en parle quand même sur France Culture.
Oui, mais parce que France Culture est exceptionnelle, cher ami, est exceptionnelle.
On parlait notamment des graves périls alimentaires aujourd'hui.
Absolument.
Pour un quart de la population qui est menacée de famine. Pourquoi ne pas sortir de cette guerre aujourd'hui ? Est-ce que la modernisation que souhaiterait le prince d'Arabie Saoudite ne passe pas justement par une résolution rapide de ce conflit ?
Alors, vous avez raison. Seulement, voilà, les guerres, c'est facile d'y entrer, c'est très difficile d'en sortir. Et sortir au jour d'aujourd'hui pour l'Arabie Saoudite du conflit yéménite, c'est accepter et reconnaître sa défaite au moment où l'Arabie Saoudite, ne l'oubliez pas, est défaite en Syrie-Irak parce que le poids de l'Arabie Saoudite dans l'évolution du conflit syrien, c'est asymptotiquement nul, et au moment où l'Arabie Saoudite est défaite au Qatar, puisque le boycott du Qatar n'a eu absolument aucun effet sur celui-ci. Et au moment où l'Arabie Saoudite risque également d'être défaite face à l'Iran, parce que tout le monde s'accorde à considérer que le match Iran-Arabie Saoudite est un match complètement déséquilibré. Alors, se retirer du Yémen, ça veut dire quoi? Ça veut dire on échoue partout, on se replie sur nous, ce qui est contraire à la ligne stratégique que je décrivais tout à l'heure.
Alors, il faut préciser que le Yémen va être, si vous voulez, une tare, une énorme tâche pour ce prince héritier, qui lui va devenir roi. Il va partir avec un handicap. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, si vous voulez, l'Arabie Saoudite n'a pas forcément envie de partir en guerre, je dis bien militaire, face à l'Iran. Ça, c'est quand même par rapport au Yémen, par rapport effectivement. Alors, vous voyez, ce sont des conflits fratricides qu'il y a en ce moment, mais par rapport au conflit, enfin, à cette guerre froide avec l'Iran. Il faut bien savoir que l'Iran, par exemple, parce qu'on dit il faut faire attention, il va y avoir un conflit, etc. Il y a un risque d'escalade, etc.
Ce qui a déjà eu lieu dans la région.
Absolument.
L'Iran n'est pas un pays nécessairement pacifique.
Absolument, mais vous savez, l'Iran, si vous voulez, souffre encore, vous savez, à l'expérience douloureuse de la guerre avec l'Irak. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite avec le Yémen et effectivement avec le Qatar. Donc, si vous voulez, j'ai envie de dire que ce jeune prince héritier Mohamed bin Salman part avec un handicap en ce qui concerne la politique extérieure, voyez. Donc effectivement, ce que j'ai su, c'est qu'il souhaiterait sortir de ce bourbier, parce que ça coûte encore une fois très cher, mais c'est, et vous l'avez dit, très très compliqué.
Bertrand Badi, sur l'Iran, vous avez fait la moue. Vous disiez néanmoins que s'il y avait un affrontement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, celui-ci serait probablement en la défaveur de l'Arabie Saoudite.
Oui, c'est la raison pour laquelle l'Iran n'a pas besoin de guerre avec l'Arabie Saoudite. Je ne pense pas que l'on puisse accoler l'étiquette de belliciste à l'Iran. L'Iran n'a même plus besoin de démonstrations militaires pour faire reconnaître sa puissance régionale.
Grâce au Hezbollah notamment.
Oui, grâce au Hezbollah, grâce finalement à l'arrivée des chiites au pouvoir à Bagdad, même si là aussi, ne simplifions pas, ce ne sont pas parce qu'ils sont chiites des clients de l'Iran, loin de là. Le régime de Bagdad a de très bonnes relations avec les États-Unis, ce qui n'est pas le cas de l'Iran. Mais enfin, l'Iran est une puissance régionale sans avoir besoin de gesticulations militaires. Ce qui est dangereux, c'est cette espèce d'obsession qui conduit M. Trump et M. Netanyahou à présenter l'Iran comme le très grand méchant loup. Pourquoi est-ce dangereux? Pour deux raisons. La première, c'est que ces messieurs font un cadeau absolument royal aux plus conservateurs en Iran, en disant, voyez, s'entendre avec l'Occident, ça mène à rien, donc il faut se radicaliser. Je pense que M. Trump doit avoir de très bonnes relations avec la droite conservatrice iranienne pour se lancer dans une telle aventure. La deuxième raison du danger, c'est que si effectivement il se crée une coalition anti-iranienne comme elle s'esquisse entre Tel Aviv, Washington et Riyad, alors là, effectivement, on risque d'ouvrir une nouvelle page très compliquée dans le jeu moyen-oriental.
Clarence Rodriguez, on a beaucoup parlé de modernisation de l'Arabie Saoudite. Vous avez dit que celle-ci allait quand même être mesurée, qu'il y avait une opinion publique qui n'était pas une opinion publique occidentale, et qu'il ne fallait pas s'attendre donc à de bouleversements. Il y a aussi de graves problèmes en matière de droits de l'homme. Il faut les rappeler, par exemple, un blogueur emprisonné depuis plus de 5 ans, Raif Badawi. Dites-nous qui il est et ce qu'on lui reproche.
Raif Badawi donc, est un jeune blogueur saoudien, journaliste, qui a créé donc un forum sur Internet. Et il faisait participer donc des internautes, leur demandant ce qu'ils pensaient un petit peu donc de la politique menée par le gouvernement saoudien. Alors bien évidemment, ça a déplu. Il a été donc arrêté. Il a été condamné à 10 ans de prison, 1000 coups de fouet, dont 50 qu'il a reçus en janvier 2015, et il purge en ce moment 5 années, ça fait depuis 2012 qu'il est en prison, de façon inique, parce qu'en fait, est-ce qu'il a commis un crime, ce jeune homme, si vous voulez? Non. on le sait. C'est pour ça que j'ai consacré effectivement ce deuxième chapitre dans mon livre, parce que c'est vraiment une injustice. La communauté internationale à ce moment-là était vent debout. Ça s'est un peu calmé, quand bien même il a reçu quand même le prix Sakharov. C'est un jeune homme, et je pense, voyez, et je le répète à l'envi, si le prince Mohammed bin Salman ne fait pas un effort du côté du droit de l'homme, je pense que, si vous voulez, il ne peut pas parler de modernité, si vous voulez, au sein même de son
pays.
Mais
d'après vous, est-ce qu'il est possible qu'il esquisse un geste en ce sens ?
Écoutez, je le souhaite fortement, mais bon, ça veut dire que je le souhaite, tout le monde le souhaite, mais je pense qu'il pourrait faire, il pourrait faire un geste, parce que encore une fois, par rapport à Raif Badawi, mais attendez, on parle de Raif Badawi et tous les autres intellectuels et religieux qui ont été jetés en prison il n'y a pas longtemps, en septembre, justement, pour asseoir sa suprématie, son pouvoir, encore une fois. Donc, c'est un peu contradictoire, vous savez, tout ça. C'est-à-dire qu'on veut moderniser un pays, mais si on passe à côté des droits de l'homme, on passe à côté de tout.
Bertrand Badi, que peut la France ? Quelles sont nos relations aujourd'hui avec l'Arabie saoudite ? Nous leur parlons souvent, nous avons beaucoup d'intérêts dans la région. Avec quelles conséquences, quel poids ?
Alors ça, c'est la question qui tue, hein, d'un certain point de vue, au sens
je
propre,
ne vous veux pas
comme au
mal.
Sens figuré. Plusieurs remarques. La France s'est beaucoup appuyée ces derniers temps sur l'Arabie saoudite. Alors on dit que chaque président avait son chouchou, c'est-à-dire Sarkozy c'était le Qatar, Hollande l'Arabie saoudite, maintenant on dit que c'est les Émirats avec Macron, tout ça est très très simplificateur. Il reste qu'il y a quand même une tradition de proximité entre les deux diplomaties qui est maintenant triplement embarrassante pour le gouvernement français, et on le voit bien d'ailleurs à l'aune de la préoccupation qu'il affiche en ce moment. Pourquoi ? D'abord parce que il faut affiner, la France était probablement proche de l'Arabie saoudite, mais était proche surtout du clan Abdallah, c'est-à-dire celui qui est vaincu aujourd'hui, celui qui se retrouve dans les geôles. Vous parliez tout à l'heure du prince Motayeb, qui est aussi le propriétaire de l'hôtel Crillon, avec qui la France a fait beaucoup, beaucoup de contrats, et qui, en principal allié personnel du gouvernement français, est en situation, en très mauvaise posture, en situation de prisonnier aujourd'hui. Ça, c'est un premier embarras. Deuxième embarras, c'est, vous le dites très bien, hélas, la violation des droits de l'homme et l'autoritarisme en Arabie Saoudite sont les conditions même de la prise de pouvoir du nouveau prince. Il a besoin de ça, non seulement pour prendre le pouvoir, mais pour conserver le pouvoir. C'est-à-dire que rien n'a espéré de structurel dans la modification des postures de l'Arabie Saoudite, comme d'ailleurs de l'Égypte, par parenthèse, ou des Émirats Arabes Unis, dont on parlait un instant, sur le plan des droits de l'homme. Et ceci embarrasse beaucoup le gouvernement français à l'heure où le président Macron a dénoncé, par exemple, le Venezuela devant l'Assemblée Générale des Nations Unies, parce que ce qui se passe dans la péninsule arabique est mille fois pire que ce qui se passe au Venezuela. Deuxième embarras. Troisième embarras, c'est le Liban. C'est-à-dire, la France est traditionnellement, et depuis le mandat, la puissance bienveillante, protectrice, marraine du Liban, tout ce que l'on veut. Or, on voit très bien ce que l'évolution de l'actualité fait subir au Liban venant de la péninsule arabique. Et la position française est intenable entre les amitiés libanaises et les amitiés saoudiennes. Comment choisir quand les deux amis se disputent à mort ?
Vous avez probablement une idée, Bertrand Badi.
Oui, moi, mon idée, je vais vous dire, elle est très simple. C'est que c'est fini le temps des parrains, des marraines, des responsabilités particulières, des tutorats, des protectorats, des mandats, des protections, des grands frères. Ça, c'est terminé. On peut plus faire de la diplomatie comme ça. Ce que nous apprend le Moyen-Orient aujourd'hui, c'est que tous les vieux parrains sont renvoyés à la maison. Regardez dans quel état est la diplomatie américaine au Moyen-Orient. Elle est inexistante. Le seul qui tire son épingle du jeu pour l'instant, c'est Poutine, parce que Poutine, c'est la Russie et l'URSS étaient en retrait du Moyen-Orient pendant de nombreuses années. Mais ils ont mangé leur pain blanc, et Poutine, s'il apparaît comme le nouveau parrain, va tomber aussi. Donc il faut avoir une diplomatie majeure, c'est-à-dire considérer que le Moyen-Orient, c'est le Moyen-Orient, la France, c'est la France, et comme dit le célèbre proverbe Bambara, on ne rase pas la tête de quelqu'un en son absence.
Clarence Rodriguez.
Mais on le voit bien, Mohamed bin Salman est en train de changer la topographie, j'ai envie de dire, de cette région du monde et du Moyen-Orient. Mais encore une fois, c'est un jeune homme ambitieux. S'il parvient à mettre en place donc son plan Vision 2030, ce sera un grand roi. En revanche, si il échoue, je pense qu'il se fera lyncher. Il plonge en tous les cas les investisseurs et la communauté internationale dans l'expectative. Donc tant qu'il n'y aura pas eu d'action de sa part, positive, je pense que le monde pourra trembler.
Donc ça, c'est le pari qu'il fait, lui, Clarence Rodriguez.
Oui.
Vous le résumez dans votre livre « L'Arabie Saoudite 3.0 » chez Éric Bonnier. Et s'il échoue, que va devenir l'Arabie Saoudite? Ça, c'est le pari que l'on peut faire, que l'on doit faire aujourd'hui au sujet de ce pays. Votre avis à ce sujet, Bertrand Madi?
Oui, je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que si l'Arabie Saoudite n'a pas de constitution, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas d'opposition. Il y a une opposition très forte, il y a une minorité chiite très active dans le nord-est de l'Arabie Saoudite. Il y a une opposition islamiste, non wahhabite, non traditionnaliste. Elle est importante, elle est active. Il y a quantité de réseaux contestataires. Il y a toute une série de princes qui ont été formés dans tout un tas d'universités américaines et qui ont appris des choses différentes de ce que l'on répète tous les matins en se levant dans les palais à Riyad. Donc, effectivement, ça peut très vite devenir une zone de déstabilisation. La fin du printemps arabe, peut-être l'été arabe.
Bertrand Badi, Clarence Rodriguez, merci pour vos lumières.